J'aimerais parler aujourd'hui sur dans le ventre du grand poisson, Jonas chapitre 2, nous lisons verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré la tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la mer m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous connaissons tous l'histoire étonnante de Jonas, qui est un prophète de Dieu, qui a reçu clairement la direction de Dieu pour sa vie. Il fallait qu'il aille donc à Ninive porter un message à cette nation qui s'était éloignée de Dieu, mais il a désobéi à l'ordre divin et a décidé de s'engager vers un voyage à l'opposé, vers Jaffo. Il est parti en bateau au port de Jaffo et puis il est parti vers Tarsis. Alors, dans sa désobéissance, je dirais que Jonas reste un croyant, il continue à aimer Dieu, il continue à prier, il continue à avoir une certaine conscience de Dieu, mais il ne veut pas lui obéir. Et parfois, on se rendra compte dans la vie chrétienne que nous devons payer un prix pour obéir à Dieu. Quelquefois, Dieu va nous demander de demander pardon à quelqu'un à qui on a fait du tort, de réparer des fautes, de rembourser peut-être ce qui a été pris. Et tout cela va mettre à l'épreuve notre foi, parce que nous disons que nous croyons, mais Dieu va nous prendre au mot, et si nous croyons, est-ce que nous allons obéir à ce que Dieu nous demande? Voilà le défi qu'il va nous lancer. Alors, Jonas désobéit, et on voit dans le chapitre 1er que tout semble favorable à Jonas dans sa désobéissance, puisque arrivé à Jaffo, alors que Dieu ne lui avait pas demandé d'aller là-bas, il trouve immédiatement un bateau qui s'embarque vers Tarsis, à l'opposé de la volonté de Dieu. Et finalement, même lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent, les choses peuvent nous sembler favorables, c'est même l'ennemi qui permet que des choses se passent pour que nous puissions continuer à nous entêter, à désobéir à Dieu. Mais j'ai remarqué quand même que les choses ne durent pas. Même si au début c'est favorable, au bout d'un certain nombre de jours de voyage, il semble que la tempête maintenant fait rage, que les éléments se déchaînent et que Dieu est en train de parler à Jonas en lui disant « Mais Jonas, tu désobéis, Jonas, ne t'entête pas, Jonas, reviens à la première volonté de Dieu. » Et effectivement, le sort tombe sur Jonas, vous savez comment il a été tiré au sort, et c'est Dieu qui a dirigé le sort, parce que tout est entre les mains de Dieu. Et les marins du bateau donc comprennent que c'est Jonas qui est l'origine de leurs problèmes. Jonas se livre à eux et leur dit « Bien, jetez-moi par-dessus bord et le calme reviendra ». C'est ce que les marins font. Mais Dieu a envoyé un grand poisson, c'est le chapitre 2, donc nous avons lu. L'Éternel dit, il est dit qu'il a envoyé un énorme poisson pour avaler Jonas et ainsi l'arracher à la mort. Certes, Jonas est dans un endroit inconfortable, c'est le ventre du poisson, ce n'est pas très à l'aise. Il est compressé, il manque d'oxygène, il est dans l'obscurité, mais enfin il est vivant. Il est vivant et ça c'est une grâce de Dieu. Le premier point c'est donc l'épreuve, la mise à l'épreuve. Les épreuves, on constate dans la parole et dans notre vie que les épreuves sont permises par Dieu d'une manière ou d'une autre, toujours pour notre bien d'ailleurs. Nous ne le comprenons pas nécessairement au moment où nous les vivons. Mais quand je lis le texte d'Abraham, Genèse 22, verset 1, lorsqu'il est dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve, d'abord c'est Dieu qui décide, c'est jamais nous qui décidons quand est-ce qu'on va avoir une épreuve. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est Dieu qui décide la nature de l'épreuve. Et là, en l'occurrence, Dieu dit à Abraham, « Donne-moi ton fils, Isaac. » Le fils unique, ça faisait 25 ans qu'il avait attendu pour sa naissance, et maintenant Dieu lui dit « Donne-moi ton fils en sacrifice ». La nature de l'épreuve est importante pour Abraham, la nature de l'épreuve est déstabilisante, mais elle va révéler chez Abraham en tout cas la foi. Et il va ressortir de cette épreuve, puisqu'il va aller jusqu'à offrir son fils sur l'Holocauste, sur l'autel plutôt. Et au dernier moment, l'ange l'arrête alors qu'il allait égorger son fils, croyant que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Mais Dieu avait pourvu pour le bélier. Et Abraham sort de là avec une foi, on va dire, plus profonde et plus grande dans la personne de Dieu. Cette épreuve donc a été un chemin d'obéissance, mais un chemin de croissance dans la foi. Alors l'épreuve arrive aussi pour Jonas. Jonas ici passe tout près de la mort. Il dit qu'il était dans le séjour des morts au verset 2. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jonas était sur le point de mourir. Il était entre la vie et la mort. Et peut-être on connaît des personnes qui ont été soit hospitalisées, soit gravement malades, ou suite à un accident de voiture, ils étaient entre la vie et la mort. Vous savez, à ce moment-là, il suffit de peu pour basculer soit du côté de la mort, soit du côté de la vie. C'est vraiment l'endroit limite, l'endroit tangent, c'était Jonas. Il suffisait de, on va dire, quelques secondes de plus où il ne pouvait pas respirer et il mourait. Et donc Dieu a veillé à ce temps. Et là, il dit, il a connu la détresse, il a connu le fond de l'abîme. Les vagues et les flots l'ont submergé. Et il nous faut nous rappeler, en voyant cette épreuve, donc du grand poisson, lorsqu'il va être avalé par ce grand poisson, que cette épreuve va avoir un but pour Jonas. Ce passage, en fait, c'est Dieu qui lui parle, qui lui dit, mais je t'avais dit quelque chose, je t'avais donné une direction dans ta vie. Toi, tu as désobéi, tu as fait tout le contraire. Mais Dieu lui dit, je t'aime quand même, et je t'ai sauvé. Je t'ai arrêté dans ta course folle, et c'est comme si Dieu lui dit, j'ai un plan pour toi, tu ne vas pas mourir, il y a encore de l'espérance pour toi, je vais encore faire quelque chose de ta vie. Le passage dans les entrailles du poisson, en fait, avait pour un but pédagogique de faire réfléchir Jonas sur sa situation de désobéissance, afin qu'il se repente, afin qu'il reconnaisse que continuer comme ça dans la vie, c'était certainement grave, et c'était mourir loin de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Si vous lisez donc le chapitre 2, vous voyez un magnifique psaume de repentance que Jonas a écrit, inspiré en fait sous l'onction, à cause de son passage dans le ventre du poisson. En fait, c'est le seul psaume que nous connaissons de Jonas. Nous ne savons pas s'il en a écrit d'autres. Mais je remarque ceci, c'est que ce psaume, il ne l'a pas composé quand il était sur la terre. Il ne l'a pas reçu, disons, quand il était sur la terre. Peut-être qu'il l'a écrit une fois sorti d'affaire. Mais il l'a reçu au milieu de son épreuve. Et ça a fait sortir de lui, cette épreuve, quelque chose qu'il avait en lui, qu'il ne connaissait pas. C'est cette capacité à écrire un psaume. C'est une richesse qui était en lui. Et on se rend compte que l'épreuve, donc, permet à des richesses qui sont enfouies en nous de venir à la lumière. Ce sont des richesses cachées, ce sont des choses que nous ne connaissions pas nous-mêmes, mais qui vont révéler chez Jonas cette capacité d'inspiration, de composer un psaume de repentance et qui va rester même dans l'écriture et que nous pouvons méditer aujourd'hui. Alors l'épreuve fait sortir des choses bonnes qui sont en nous. Jacques écrit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Ça aussi c'est bon. Mais il faut passer par l'épreuve. Vous voyez que l'épreuve va générer quelque chose de positif dans la vie du croyant. Pierre écrit dans 1 Pierre 1,7 « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, aura pour résultat, alors quelque chose de positif, la louange, deuxièmement la gloire, troisièmement l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Là encore, l'épreuve de la foi, si notre foi est éprouvée, eh bien Dieu dit « Ce n'est pas pour vous enfoncer, mais ça va faire sortir quelque chose de glorieux, quelque chose de positif, que ce soit la patience, que ce soit l'adoration, que ce soit d'autres expériences spirituelles, la foi comme Abraham, eh bien cela est bénéfique. On le voit dans la nature, et Jésus d'ailleurs reprend cette image, lorsqu'il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus prend tout simplement une image de la nature. Nous connaissons tous les grains de blé, nous en avons pris dans la main. Le grain de blé a une particularité tout à fait propre à cette plante, c'est qu'il ne germe pas spontanément. Le grain de blé, si vous le gardez dans votre main, si vous le gardez par exemple dans un petit sac, il ne va pas germer. Il va rester sec. Mais par contre, si vous le mettez sous la terre, il se passe quelque chose dans sa carapace se fend, et ça va libérer en lui la vie intérieure, la vie qui va permettre que ça produise du fruit. En fait, c'est le contexte qui fait que ce grain de blé va changer. Eh bien, ce grain de blé, c'est nous. Hein. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Afin que nous puissions produire le fruit que Dieu a mis en nous, il va falloir que la carapace de ce grain de blé soit brisée. Et cette carapace, c'est notre nature charnelle, ce sont nos pensées vaines, c'est notre manière de voir le monde humain, nos pensées éloignées de Dieu. Et tout cela, eh bien, nous y sommes attachés parce que ça fait partie de notre nature humaine. Eh bien, Dieu ne peut nous en séparer que dans un certain contexte, c'est-à-dire sous la terre. Quand ce grain de blé va être sous la terre, eh bien, la carapace va se rompre. De même, dans l'épreuve, la carapace du croyant va se fissurer et va laisser venir en lumière, eh bien, toutes les bonnes choses qui sont en lui. Le poisson, ce géant poisson, a été à la fois un instrument de mort et de vie. Je m'explique. Un instrument de mort, parce qu'il fallait faire mourir en Jonas cet orgueil, cette désobéissance, cet esprit charnel, en fait, cette carapace que nous avons tous. Et le poisson a été pour Jonas comme la terre pour le grain de blé. Ça l'a fissuré, ça a brisé son orgueil, ça a permis la naissance d'un nouveau Jonas. Par exemple, Étienne, dans Actes 7,51, dit plutôt aux Juifs qui seront là, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Voilà la nature de Jonas finalement, c'est un homme rebelle, c'est un homme au cou raide, c'est-à-dire qui ne se laisse pas facilement plier, pas facilement diriger. Il a un cœur incirconcis, il s'oppose au Saint-Esprit. Enfin, on a toute la description de Jonas. Mais c'est aussi la description de notre propre existence, car souvent, nous désobéissons à la volonté de Dieu. Donc le poisson, on va dire premièrement, c'est un instrument de mort pour faire mourir en Jonas toute sa nature charnelle, sa désobéissance. Mais en même temps, le poisson, c'est un instrument de vie pour faire naître en Jonas les qualités nouvelles que Dieu y a placées. Ces qualités sont la foi, l'obéissance, la patience, la reconnaissance. Et l'objet du psaume qu'il va faire, ça exprime la reconnaissance qui va jaillir du cœur de Jonas. Ça, c'était le premier point, donc. L'épreuve est utilisée par Dieu pour faire naître en nous des choses nouvelles. Deuxième point, Jonas à un moment donné a perdu tout espoir. La perte de tout espoir. Dans le verset 2 à 6, alors je le lis dans la version Semeur, plutôt chapitre 2, versets 6 et 7. « Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête et les algues m'enlaçaient. Je suis descendu jusqu'au fond des mers où naissent les montagnes. La terre avait été déjà tirée derrière moi. Ses verrous avaient déjà tiré derrière moi. Ses verrous pour toujours. » Qu'est-ce que Jonas est en train de dire? C'est que maintenant que c'est les ténèbres qui dominent, c'est l'obscurité, il ne voit plus rien, eh bien c'est vrai que dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité, et dans l'obscurité, c'est pas facile. Comment faire quand on est dans l'obscurité? Nous savons tous que la lumière est bénéfique pour le moral. C'est pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent dans des régions ensoleillées. Ce sont des régions très prisées, parce que les gens, moralement, sont beaucoup plus, beaucoup mieux dans leur esprit, dans leur tête, quand il fait soleil, quand il y a une belle luminosité, que quand il fait sombre, quand il fait nuit. Les régions où il fait beaucoup nuit longtemps, souvent, génèrent une sorte de démoralisation. C'est humain, c'est physique, c'est comme ça. On est fait pour être en communion avec la lumière, en fait. Et donc, les chercheurs ont fait une expérience tout à fait intéressante avec des rats. Pour voir, en fait, l'objectif, c'était de voir comment est-ce qu'ils allaient endurer les difficultés. Alors, ils ont pris un premier rat qu'ils ont placé dans un récipient d'une hauteur suffisamment élevée pour que le rat ne puisse pas en sortir par lui-même. Et au fond du récipient, ils avaient mis de l'eau. Puis, ils ont placé ce récipient avec ce rat dans une pièce entièrement obscure. Et ils ont regardé ce qui se passe. Évidemment, le rat a essayé de s'en sortir. En fait, il a, pendant 3 minutes, essayé de sortir du récipient. Puis à chaque fois, il retombait en bas. Et au bout de 3 minutes, il a abandonné. Alors, ils ont pris un deuxième rat, ils ont pris le même récipient, ils ont pris la même pièce, mais ils ont simplement débouché les ouvertures pour que la lumière rentre dans la pièce. Donc, c'était une pièce ensoleillée, c'était une pièce où ils ont créé de la lumière. Eh bien, ce rat, le deuxième, dans le même contexte, mais avec juste la différence de la lumière, c'était le même récipient, c'était la même quantité d'eau, il a essayé de se débattre pendant 36 heures avant d'abandonner. Ceci montre qu'il s'est battu, on va dire, 700 fois plus que le premier rat. Tout simplement parce qu'il était dans la lumière. Et que cette lumière générait en lui un certain espoir. Et que quand il n'y a pas la lumière, que vous le vouliez ou non, eh bien vous perdez l'espoir. Vous perdez, c'est-à-dire que le premier rat n'avait plus l'envie de se battre. Il n'avait plus envie de chercher à s'en sortir, plus aucun espoir, plus d'avenir devant lui. En fait, rapidement, il abandonne. Et c'est exactement la même chose pour nous. Si nous n'avons plus d'espérance, nous allons abandonner rapidement, nous allons renoncer, nous allons quitter. Mais si nous avons cette lumière de la vie qui est Jésus, si nous avons Christ en nous, alors frères et sœurs, nous allons durer bien, bien plus longtemps, et même le Seigneur renouvellera nos forces pendant la marche, de sorte qu'on n'abandonnera pas. C'est ça la différence entre le croyant, celui qui a la lumière de la vie, et celui qui n'a pas la lumière. C'est une grande différence. Mais l'obscurité que Jonas vit est un véritable facteur de découragement aggravant, de sorte que quand on est dans l'obscurité, quand on est découragé, bien on interprète tout avec négativisme. On est la nuit, on est triste, on analyse mal. Vous savez que la nuit, on analyse très mal les choses. J'ai fait une très mauvaise expérience comme cela une fois, quand j'étais directeur de colonie de vacances, et que je m'occupais d'adolescents qui avaient été passablement turbulents. Alors pour les calmer, avec les moniteurs, on s'était arrangé pour faire un grand jeu de nuit pour leur faire peur. Et c'était l'idée d'aller chasser un animal, quelqu'un qui se déguise en animal, au milieu des bois, et puis il fallait le retrouver. On était sûr que ça allait leur faire peur, cette affaire. Alors, quand j'ai demandé un volontaire pour jouer le rôle de l'animal, tous les moniteurs ont fait un pas en arrière. Et je me suis retrouvé tout seul, avec mon idée, hein, c'est là qu'on voit la solidarité, je me suis retrouvé tout seul à devoir faire l'animal, donc pour faire le coup aux ados. Alors, on avait repéré un magnifique petit bois, le jour, et on s'était dit, ben, c'est là qu'on va leur faire peur cette nuit. Alors on avait bien repéré, et la nuit j'y vais, j'y retourne. C'était un bois où c'était marqué « propriété privée, chasse gardée ». Et la nuit, vous savez, c'est pas pareil que le jour. Je me retrouvais dans ce bois, et déjà moi-même, j'éprouvais certaines craintes. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici dans un bois en pleine nuit? Surtout que la nuit, vous n'arrivez pas à analyser où vous êtes par rapport au bois. Est-ce que je suis au milieu? Est-ce que je suis sur le bord? Bref, moi-même, j'étais un peu perdu dans le bois. Et puis, j'avais une corne pour imiter le bruit de l'animal. Et donc, j'étais parti avant tout le monde. Et j'étais censé souffler dans ma corne pour que les ados, eux, quand ils arrivent dans le bois, ils soient terrorisés, ils aient peur. Et voilà. Que... Sauf que au moment où j'ai embouché la corne et que j'ai soufflé dedans, ça a fait un tel bruit que moi-même, je me suis mis à trembler de peur. J'avais peur. La nuit, vous voyez rien, vous avez peur. Et le pire de tout pour moi, c'est que j'entendais des bruits de pas autour de moi. Et je regardais, mais je voyais rien. Je regardais à gauche, je regardais à droite, je vous assure, il y avait des bruits de pas. Je ne savais pas ce que c'était. Et immédiatement dans mon esprit, j'ai eu cette pensée comme un flash. Comme si c'était un chasseur qui venait chasser du gibier la nuit. Et j'ai eu cette pensée, comme les gros titres d'un journal, un directeur de colonie de vacances abattu par un chasseur en pleine nuit. Oui. Et moi j'étais avec ma corne dans les bois, je ne savais pas qui c'était des animaux, je ne sais pas, des bruits de pas. Et je devais faire peur aux ados et j'étais terrorisé moi-même. Parce que la nuit, on analyse tout. tout mal. Et en plus, le pire de tout, c'est que les minutes passaient, on n'a pas de notion du temps la nuit, mais je ne sais pas si je suis resté une demi-heure, une heure, deux heures, je ne sais pas. Je n'avais pas de repère, mais je peux vous assurer, j'avais qu'une hâte, c'était qu'ils arrivent et qu'on sorte de cette affaire. Donc la nuit, vous analysez mal les choses. Peut-être qu'il n'y avait pas de danger, peut-être qu'il n'y avait rien de grave, mais dans votre esprit, c'est l'agitation, c'est la peur, c'est l'angoisse, et toutes ces choses vont dominer. Et Jean de la Croix écrit ceci, il y a trois nuits par lesquelles nous pouvons passer. La première, il dit, c'est la nuit des sens, quand on ne ressent plus rien et on n'a plus goût à prier ou à louer Dieu. La deuxième nuit, il dit, c'est la nuit de l'intelligence, quand on ne comprend plus rien de ce qui nous arrive et que ça n'a plus aucun sens. Et puis la troisième nuit par laquelle on peut passer, c'est celle de la foi. La nuit de la foi, c'est quand on n'arrive plus à croire que Dieu va intervenir, que c'est trop tard et qu'il n'a pas agi. Vous savez, quand on prend une pièce de puzzle toute seule, elle peut être toute noire et elle n'a aucun sens en elle-même. Mais lorsqu'on la place dans l'image générale, alors ce noir-là, il prend tout son sens avec la photographie ou l'image qui est représentée parce que c'est une zone. Mais en réalité, si nous regardons certains instants de notre vie, ils sont comme des images de puzzle très sombres, très noires. Mais il faut regarder la photo générale. Et on comprendra que chaque chose a une place que Dieu permet pour donner un sens à l'ensemble. Un troisième point, c'est la prière de la foi, au verset 8. « Quand mon âme était abattue, dit Jonas, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Jonas est au fond du trou, mais il trouve la ressource de faire monter vers Dieu la prière de la foi. Au verset 5, il dit « Je verrai encore ton Saint-Temple. » Il est dans le cœur du poisson, dans le ventre du poisson, au cœur de la mer, mais il dit « Je verrai encore ton Saint-Temple. » Ça, c'est une expression de foi. Il y a un psalmiste qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai pour célébrer les œuvres de l'Éternel. » C'est dans ces moments les plus difficiles, quand on se tourne vers Dieu, qu'on fait souvent les prières les plus ferventes. C'est facile de prier du bout des lèvres, c'est facile de prier avec l'esprit ailleurs, mais quand on est dans le ventre du poisson, quand on est au milieu de la mer, alors à ce moment-là, c'est la prière de la foi, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et Jésus nous a demandé d'activer la foi avec la prière. Matthieu 21-22, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Jésus nous dit « Activez la foi. » Activez la foi avec la prière. La foi, c'est un agent qui va donner une efficacité à la prière. Un agent actif. La prière va être agissante. Jacques 5,16 « Confessez vos péchés les uns aux autres. » Ça veut dire enlever tout obstacle à vos prières. « Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Oui, mais c'est la prière de la foi. C'est la prière où on a demandé pardon. C'est la prière où on a confessé ses péchés. Jacques ici donne un enseignement important. C'est qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais il dit d'abord confessez vos péchés parce que l'obstacle va être anéanti et ça va permettre l'exaucement. Parce qu'on peut prier 10 fois, 20 fois. Si on n'a pas fait le début qui dit confessez vos péchés et demandez pardon, eh bien en fait c'est comme s'il y a un obstacle qui bloque la prière. Elle n'est pas exaucée. La prière n'est pas magique. Dieu accorde l'exaucement, oui, mais il y a des conditions. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est une réalité. Vous voyez, Paul en parle, lui, il n'a pas peur d'en parler. Oh, quelquefois, on m'a dit, pasteur, vous culpabilisez les gens en disant qu'il faut faire comme ci, comme ça, mais Dieu fait ce qu'il veut. Non. Paul le fait, regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. C'est le fameux passage sur la Sainte Cène. Tout le monde connaît ce passage. Et il dit ceci, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. » Paul s'adresse bien ici à des chrétiens, il ne prend pas les choses à la légère, et je crois que Paul est rempli d'amour, il ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un ici. Mais il cherche simplement à dire la vérité. Et la vérité, ça peut faire mal. C'est-à-dire la vérité, ça consiste à reconnaître ses torts, confesser ses péchés, demander pardon, se réconcilier avec son frère, obéir à ce que Dieu demande, rendre ce qui a été volé. Et si on ne le fait pas, les conséquences arrivent. Il y a ici des infirmes, il y a des malades, il y a même des morts, il y a des gens qui ne mettent pas leur vie en ordre avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'autre chose. Alors on sait très bien que le manque de pardon, par exemple, va générer un non-exaucement. On le sait, mais pourtant beaucoup continuent à ne pas pardonner. Quand un chrétien dit du mal de son frère, par exemple, il le critique, il fait des polémiques, il calomnie, il sait très bien que c'est mal. Ses prières vont être comme anesthésiées. Il ne va pas y avoir d'impact. Et même lui, il va se retrouver dans une situation difficile. Mais Paul en parle de cela. Quand un chrétien convoite dans son cœur quelqu'un parce qu'il a des belles maisons, une voiture, ou la femme de son prochain, Jésus en parle, quand il a de la cupidité, de la fraude, eh bien tant qu'il ne demande pas pardon, qu'il ne se repent pas sincèrement, il n'y a pas d'avancée possible. Je sais que certains, dans la maladie, sont prêts à faire n'importe quoi. On a des gens qui sont prêts à payer des billets d'avion pour aller à l'autre bout de la France ou du monde pour que quelqu'un, soi-disant, ministère, prie pour eux. Mais ils arrivent là-bas, on prie pour eux, ils reviennent pareil que comme ils sont partis. Ce n'est pas cela. Paul l'explique bien, c'est personnel parce que Dieu agit là-bas, il agit ici, il agit ailleurs. Ce n'est pas tellement le problème de tel ou tel endroit ou de tel ou tel, entre guillemets, ministère. C'est à chacun de régler sa vie, de la mettre en ordre par rapport à Dieu. Et le dernier point, c'est la louange, au verset 10. La louange qui va accompagner la prière d'action de grâce. Quatrième point, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. J'aime bien ce psaume parce que dans sa prière, il accompagne de reconnaissance. Et c'est vrai pour nous. Même au sein de l'épreuve, nous pouvons avoir une prière de louange en disant « Merci Seigneur pour ta fidélité ». C'est-à-dire que Jonas n'attend même pas d'être sorti du ventre du poisson pour exprimer à Dieu sa reconnaissance. Alors ça, c'est une des prières qui irrite le diable le plus. Parce que le diable aimerait bien qu'à ce moment-là, on ne loue pas le Seigneur. Et que plutôt on se plaigne de la situation en faisant des prières de gémissement. « Seigneur, pourquoi tu m'as placé ici ? Et tu vois mon frère, lui, il est guéri et moi je suis pas guéri. » Et on commence à divaguer. Ben, le diable, il aime ce genre de prière-là de plainte. Mais par contre, la prière de louange et de reconnaissance que vous allez faire au sein même de l'épreuve, alors je peux vous assurer que ça... ça l'agace. Mais frères et sœurs, faisons-le de tout notre cœur, parce que c'est pas le diable qui va nous fermer la bouche, au contraire, ouvrons-la bien grande. Moi, ce que je conseille souvent aux chrétiens, c'est de faire tout le contraire de ce que le diable y veut. Le diable, il veut vous faire taire la bouche, alors ouvrez-la. Le diable, il veut pas que vous veniez à l'église, venez. Le diable, il vous dit, t'es fatigué, tu ferais mieux de te reposer, levez-vous et allez-y. Ainsi, si vous faites tout le contraire, vous êtes sûr de faire la volonté de Dieu. Mais si vous écoutez sa voix, vous êtes sûr que ça va mal tourner. Alors, au contraire, nous devons imposer silence à l'adversaire et faire la volonté de Dieu, laisser éclater notre reconnaissance. J'ai un exemple dans Actes 5, verset 41. Les apôtres viennent d'être arrêtés par le Sanhédrin, qui était l'organe judiciaire des Juifs à l'époque. Et qu'est-ce que leur disent les Juifs, qui étaient quand même des gens assez sévères et stricts? Ils leur disent « Maintenant, nous vous interdisons de continuer à témoigner du nom de Jésus. Nous vous l'interdisons formellement. » Qu'est-ce qu'on fait? Ils les ont battus pour cela. C'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter. On pourrait se dire, bah mince, on fait l'œuvre de Dieu, on n'a que des problèmes. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Eh bien, cela, ce n'est pas une réaction naturelle. C'est une réaction vraiment de croyant qui est rempli du Saint-Esprit, qui est capable de conserver la joie, de continuer à louer Dieu, alors que tout lui dit, tu ferais mieux d'arrêter, ça va mal, les gens ne veulent pas écouter le message de Christ. Non, exprimons notre joie dans l'épreuve, frères et sœurs, comme les apôtres l'ont fait, comme nos prédécesseurs l'ont fait avant nous. Et puis le verset 11, pour terminer, c'est l'exaucement. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est souverain et que la durée de l'épreuve, ben c'est Dieu qui la détermine. Ça peut durer un jour, ça peut durer 10 jours, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans. C'est Dieu qui détermine le temps où Jonas va être expulsé sur la terre. Dieu a utilisé des corbeaux, par exemple, pour nourrir Élie. Donc il fait ce qu'il veut. Là, il utilise un grand poisson, il peut utiliser des corbeaux, il a utilisé des lions. À un moment donné, Daniel, qui a été jeté dans une fosse remplie de lions affamés, parce qu'il avait, lui, préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et bien, Dieu a fermé la gueule des lions, et ils ne lui ont fait aucun mal. Dieu utilise, vous voyez, tout ce qu'il veut, la nature est à sa disposition. Ici, c'est le poisson qui va ramener Jonas. Alors, j'ai remarqué que Jonas avait fait une partie du trajet pour aller à Tarsis, à l'opposé de la volonté de Dieu. Il a été jeté par-dessus bord au milieu. Et c'est un poisson qui l'a ramené au point de départ, à Jaffo. Il a eu un billet retour gratuit, voyage en classe économique. Certains chrétiens ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont malheureux, frères et sœurs. Quand on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, on va devenir amer, on va juger Dieu, on va dire « c'est pas juste, c'est pas normal ce qui m'arrive ». Et on va en vouloir à Dieu de ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Dieu fonctionne comme nous. Mais c'est une erreur. Ils vont penser que c'est trop tard. C'est encore une erreur. Comme cette jeune fille qui est venue me voir à l'issue d'une réunion, elle avait 20 ans, elle venait de rompre avec son compagnon, son fiancé, et elle était complètement désespérée. Elle me dit « Mais pasteur, je m'en sortirai jamais, je me marierai jamais, je serai toujours seule. » Et elle pleurait à l'âge de 20 ans. Alors moi-même, je me disais, mais si elle avait 70 ans, je comprends qu'elle soit comme ça, mais là, 20 ans, elle a encore de l'espérance quand même. Et je ne savais pas comment la consoler tellement elle était déprimée. Et 2 ans après, elle a trouvé la bonne personne. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Et quelquefois, on se met dans des situations et on dit des choses incroyables. « Je serai toujours seul, je m'en sortirai jamais, je me marierai pas, et patati et patata », alors que c'est tout le contraire qui s'est passé. Alors, quelquefois, nos pensées nous emmènent vraiment loin des plans de Dieu. Il faut qu'on en soit débarrassé. Ça, c'est l'ennemi qui te dit « c'est trop tard, tu te marieras jamais, tu t'en sortiras pas, tu vivras tout seul », etc. Mais pour Jonas, il a bien compris le temps de Dieu. Est-ce que vous savez combien de temps Jonas est resté dans le ventre du poisson ? Ouais. 3 jours et 3 nuits. Et il y a une raison pour cela. C'est prophétique. Jonas ne le sait pas, lui, il est un petit peu inconscient. Mais on sait que Jésus va être 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et Jonas, en fait, c'est une préfiguration de l'ensevelissement de Christ. Donc, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et si Jonas avait dit, bon, écoute Seigneur, ça fait déjà 24 heures que je suis dans le ventre du poisson, j'ai compris la leçon, j'ai fait mon psaume de repentance, alors maintenant, s'il te plaît, tu me sors de là. Et il aurait pu en vouloir à Dieu, mais il dit, c'est pourquoi Seigneur, encore un jour de plus? Et pourquoi un troisième jour? Eh oui, mais c'est Dieu qui a décidé. 3 jours et 3 nuits. On peut faire tout ce qu'on veut. Il aurait pu faire des jeûnes. Il aurait pu s'arracher les cheveux. Il aurait pu crier tout ce qu'il pouvait. C'est pas ça qui va faire changer Dieu d'avis. Parce qu'il y avait une volonté prophétique derrière cet acte. Et il y avait la main de Dieu, la souveraineté de Dieu. Paul prend l'image du vase et du potier. Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que nous, on va contester avec Dieu et dire « mais c'est pas normal, pourquoi tu me fais attendre ?» Il y a des paramètres qui nous échappent. J'ai beaucoup appris de la souveraineté de Dieu avec la maladie de mon épouse Laurence qui est survenue en 2008. Lorsqu'elle a commencé à être malade, on pensait que ça n'allait pas durer très longtemps parce qu'on est toujours très optimiste. Quand on est chrétien, on se dit bah, « Dieu va agir, merci Seigneur ». 1 mois, 2 mois, 3 mois passent. On commençait à faire des prières, des jeûnes et prières. On commençait à imposer les mains. On commençait à faire des supplications. Un an passe, toujours rien, la maladie continue à s'installer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a continué à prier. Chaque jour, on s'attendait à Dieu, mais il n'y avait rien. 2 années passent. On avait même fait des nuits de prière. Je ne sais pas quelle prière on n'a pas fait pendant ces 3 ans. On a fait toutes les prières qu'on pouvait faire. Imaginez, savoir, on a tout essayé. Il n'y avait pas le moindre petit espace d'amélioration. Petite espérance. Vous savez, des fois, on cherche un petit peu de lumière dans les ténèbres. Il n'y avait rien. Et au bout de 3 ans, sans que personne prie particulièrement, paf, à un moment donné, elle reçoit de Dieu, « Ah, tu arrêtes ton traitement aujourd'hui, je te guéris aujourd'hui. » Même la veille, on n'avait même pas l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Comme quoi, à un moment donné, il y a Dieu qui agit quand il veut, comme il veut, à la manière qu'il veut. Et elle a été guérie instantanément au moment où la parole de Dieu est rentrée dans son cœur, ses os se sont remis en place, les médicaments, elle n'en a plus jamais pris, et elle a été complètement guérie. Moi, j'appelle ça la souveraineté de Dieu. Dieu n'agit pas nécessairement quand on pense, à la manière qu'on pense, mais il agit comme il veut, quand il veut. Mais simplement, nous avons dû simplement patienter dans la foi. Et je me rappelle très bien en 2011, puisque j'ai pu aller à la convention suivante à Valence, dans la même pastorale, je donnais le témoignage de la guérison de mon épouse, l'été précédent, et dans la même pastorale, un pasteur venait témoigner du décès de sa femme, un jeune pasteur. Dieu avait repris sa femme d'un AVC, brutalement, laissant 3 enfants en bas âge, en gros entre 3 et 6 ans les enfants. Et quelques années plus tard, ce pasteur veuf, donc qui vivait une épreuve terrible, a rencontré la bonne personne, une épouse. Ils se sont mariés et aujourd'hui ils sont mariés. C'est le pasteur Emmanuel Avril. Aujourd'hui il sert le Seigneur à Bordeaux. Eh bien, nous avons témoigné dans la même convention. D'un côté, une guérison miraculeuse. D'un autre côté, Dieu a repris une épouse. Mais ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Et ça, il n'y a aucun sur terre qui peut comprendre. Pourquoi Dieu a laissé l'un et pourquoi Dieu a repris l'autre? Eh bien, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que tout ce que Dieu fait, est bon. Et simplement, il nous faut accepter que Dieu intervient. Tant pour l'un, il agit comme ça, tant pour l'autre, il agit comme ça. En conclusion, le ventre du poisson, personne ne le veut, mais c'était le meilleur endroit pour Jonas pour grandir. Là, il faisait nuit, là, il ne pouvait pas beaucoup respirer, là, il a perdu tous ses repères, mais c'est ici, dans le ventre du poisson, au cœur de la mer, que Jonas va développer des qualités extraordinaires, remarquables. Il a pu composer ce psaume, que même Jonas ignorait qu'il avait au fond de lui. Eh bien, voilà comment Dieu travaille, frères et sœurs. Vous pouvez aussi connaître un nouveau départ comme Jonas, puisqu'il a été rejeté sur la terre. Il est reparti, en fait, d'un nouveau pas. On va prier un instant. Merci encore pour ta grâce, ta présence. Nous savons que tu es là à l'œuvre et que tu vas faire de grandes et belles choses dans nos vies et que rien n'arrive par hasard, mais que tu utilises toutes choses pour la gloire de ton nom. Oui, merci de bénir ce moment de prière que nous allons avoir ensemble, de nous conduire par ton esprit. Et en toute chose, nous te rendons grâce. Merci pour le témoignage de Jonas qui a pu expérimenter vraiment ta grâce au sein de la nuit. Mais tu as été avec lui et tu l'as fait sortir, Seigneur, de ce tourment. Oui, dans le nom de Jésus, nous te remettons le reste de cet après-midi et nous te rendons gloire. Amen.